Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez Au fil des pages, dirigé par Benoît Mancheron, assisté de Véronique, diffusé en direct mercredi 30 janvier 2019, de 10h45 à 11h45 et réalisé par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Véronique est à mes côtés.
Bonjour Benoît et bonjour chers auditeurs.
De même que Christine. Cher Bernard Dufour, vous n'êtes jamais venu, je crois, au micro de Radio Courtoisie.
Oui, j'y suis venu. Bonjour Benoît d'abord. J'y suis venu, mais pas avec vous.
Ah,
pas eu ce plaisir.
Donc vous avez déjà tout de même été invité, peut-être par Monsieur l'abbé Laurence.
Voilà,
je vous soupçonne d'être un complice de Monsieur l'abbé Laurence.
Si l'on veut, s'il l'admet.
Et pour une très noble cause, puisque vous vous occupez de l'association Mission, dont s'occupait également votre épouse, dont il va être question aujourd'hui, à savoir Fabienne Monclar. Vous êtes l'époux de Fabienne Monclar, et vous vous occupiez, et vous occupez encore avec elle, de l'association d'aide aux missionnaires traditionnels.
C'est ça. En fait, j'étais le trésorier.
Enfin, vous êtes.
J'étais et je suis encore, et j'ai pris une fonction supplémentaire pour suppléer l'absence de mon épouse. Donc maintenant, je ne sais pas si le titre existe, mais je suis trésorier et rédacteur, ou rédacteur et trésorier, ça dépend des circonstances.
Alors, cette association existe depuis combien de temps ?
Elle a été fondée en mars 2011, et la première lettre est sortie en juillet 2011.
Oui, donc c'est tout
fait
relativement récent.
8 ans, on est bientôt dans la 9e année.
Et elle a été créée pour venir en aide donc, aux missionnaires, et en même temps faire écho à leurs actions, à leurs différentes actions, leurs besoins.
En fait, c'est ça. L'idée initiale, c'était de ramasser des fonds pour subvenir aux besoins des missionnaires de la Fraternité Saint-Pélice. Et cette mission-là perdure et s'amplifie puisque les missions s'étendent, leur apostolat porte du fruit, donc les demandes sont plus importantes et les besoins se font ressentir. Donc, qu'ils l'expriment ou pas, il y a besoin d'argent. Et quand on leur pose la question, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un gros besoin d'argent et que nous sommes insuffisants. Alors, je ne dis pas que nous ne faisons pas assez ce qu'il faut pour faire appel aux donateurs, mais on ne peut pas non plus secouer les gens, et je crois que les gens sont très sollicités par ailleurs, donc c'est à eux de faire un choix. On n'impose rien à personne, on fait une lettre, et puis ensuite, à la lecture de la lettre, les gens décident de donner chez nous ou ailleurs.
Et ce qui motive, c'est tout de même que c'est un écho extraordinaire de ce qui peut se passer sur tous les continents.
Oui, tous les continents, mais à ceci près que les missions, si vous voulez, s'installent dans des pays et à partir de ces pays rayonnent. Donc 36 pays sont concernés par une installation définitive et 36 autres par le fait que la mission n'est pas très loin. Donc les missionnaires peuvent se rendre dans d'autres pays. Mais ça ne fait que 72 pays, mais il faut du temps aussi, parce que d'abord, on n'a pas tous les missionnaires que l'on voudrait. Hein. La Fraternité Saint-Pédis a 650 prêtres. Je n'ai pas dit que 650 prêtres, mais 650 prêtres, et il en faudrait beaucoup plus pour être partout. Donc laissons le temps agir et faisons les choses dans l'ordre, et lentement, finalement, c'est beaucoup plus sûr.
Mais ce qui est particulièrement intéressant, je reviens là-dessus, c'est le fait que vous donnez des nouvelles du monde à travers cette lettre.
Oui.
Il y a des échos.
Il y a des échos.
Et c'est en ce sens-là, par exemple, je pense à un numéro qui avait été fait sur les Philippines, avec l'empreinte de plus en plus forte de l'islam aux Philippines.
Tout à fait.
Parce que l'on ne connaît pas vraiment, mais il n'empêche qu'il y a quand même cette partie des Philippines qui va voter pour un référendum sur l'autonomie et qui est très largement occupée par les musulmans.
Tout à fait.
Et où figure, d'ailleurs, où est en mission l'abbé de La Roque.
Oui, mais alors... cette partie des Philippines est dans le sud, bon, a toujours été instable. Leur donner l'autonomie, je ne sais pas si c'est une bonne solution. Je ne suis pas le président des Philippines. Il avait eu avant une attitude beaucoup plus violente, mais qui finalement n'a pas porté ses fruits. Il faut dire que l'Indonésie n'est pas loin non plus. Hein.
Oui.
Donc, il a beau s'évertuer à essayer d'éradiquer l'islam... les couches reviennent par derrière. Hein. C'est un peu comme à la guerre avec les Chinois en face, ça revenait par vagues. Donc, bon, on verra.
Je fais exprès de prendre cet exemple-là, parce qu'il se trouve que l'évêque du lieu a pris parti pour le référendum et donc pour l'autonomie.
Oui. L'autonomie, c'est-à-dire mettre un pied définitif de l'islam sur les Philippines. Et comme l'Indonésie est juste derrière, ensuite ils continueront à grignoter. Fort d'être installés officiellement sur une île, ils iront à la conquête des autres.
D'où la nécessité de soutenir les missions.
Tout à fait.
Voilà. CQFD. Alors, l'objet de cette émission est tout de même finalement celui de votre épouse. Alors, votre épouse, Fabienne Monclar, a écrit deux livres, a publié deux livres, l'un consacré aux héros de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, enfin de la Seconde Guerre mondiale, on pourrait dire de la première, de la Seconde et de la guerre de Corée. Son père,
oui.
Le fameux Ralph Monclar, qui est d'ailleurs un pseudonyme, hein, le mot de Monclar. Vous allez nous dire d'ailleurs le vrai nom de son père et de votre épouse. Et elle a également publié, parce qu'elle s'intéressait beaucoup à la mission et à l'Afrique, où vous vous êtes rendu vous-même comme attaché de défense.
À la fin, oui.
À la fin, dans un pays très intéressant à étudier, puisqu'il s'agit du Nigeria. Donc votre épouse a rendu compte dans un dernier livre qui s'intitule « La Blanche avec sa croix » de tout son amour à la fois pour l'Afrique et de ce qu'elle considère comme étant un réservoir d'énergie et de réaction face à non seulement au mondialisme mais surtout à toutes les décadences occidentales.
Oui, tout à fait. C'est en fait le premier livre qu'on oublie quelquefois un peu. Et c'est dommage parce que récemment, je les ai apportés à une personne qui m'avait commandé les deux ouvrages. Et j'ai eu un petit retour parce qu'il a déjà terminé Monclar. Et il m'a dit que c'était... je ne fais pas de publicité, hein, je cite, que c'était remarquable et qu'il avait appris énormément de choses. Voilà, bon.
Monclar, le Bayard du XXe siècle.
Oui, tout à fait. Bon,
avec une préface de Pierre Montagnon. Et ceux qui s'intéressent, c'est un gros livre, hein, d'au moins 600 pages.
L'avantage de ce livre, c'est que, bon, il parle de son père, c'était quand même l'acteur principal là-dedans. Mais elle fait des rapprochements et surtout un peu de géopolitique et replace certaines actions qui trouvent leur. Des actions actuelles, on entend, qui trouvent leur origine, en fait, dans ces époques un peu éloignées, hein, c'est-à-dire de l'époque du début du XXe siècle.
Voilà. Et d'ailleurs, la revue Képi Blanc en avait dit tout le bien qu'en pense la Légion.
Tout à fait. Bon,
et Véronique va nous lire ce qu'en dit Képi Blanc.
À partir d'archives inédites, la fille du général Monclar relate la vie de ce meneur d'hommes qui aimait ses soldats comme ses enfants. De ce récit biographique qui se lit comme un roman d'aventure, jaillit le caractère bien trempé de cet officier rompu à tous les pièges de la guerre. De la Grande Guerre au Maroc, en passant par le Levant, l'Asie et la vieille Europe, le lecteur revit le corps à corps des tranchées, les campagnes africaines et tonkinoises des légionnaires, la seule victoire de 1940, Narvik, jusqu'à l'épopée coréenne.
Oui, parce qu'on oublie un peu trop vite que Monclar a été le seul vainqueur de la guerre de 40.
Oui, en fait...
De la campagne.
Pas lui tout seul, parce que c'était dans un corps expéditionnaire avec le général Bétouard à la tête.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est l'action de la 13e demi-brigade qu'il commandait qui a permis ensuite de conquérir Narvik. Voilà. Donc c'était, bon, il n'était pas le seul, mais il était quand même un élément essentiel.
Ce qui fait qu'on ne peut pas dire que la campagne de 40 ait été un échec total.
Non, c'était un échec politique peut-être, oui. Mais sur le plan de la guerre, c'était gagné, c'est certain. Alors après...
La campagne de France est une autre affaire.
C'est autre chose, mais ce n'est pas le but de l'émission.
Alors l'ouvrage en question, Bernard Monclar, vous le définiriez comment ? Il s'intitule « La Blanche avec sa croix ». Et ce titre fait référence à un épisode qui est décrit dans l'ouvrage. Mais pour vous, c'est le livre dans lequel se livre votre épouse, le mieux votre épouse ?
Oui, je crois qu'elle fait le tour du problème, si l'on peut dire. C'est-à-dire que à la fois, elle présente des petites aventures qui sont le fond du livre. Elle met en avant son apostolat, qu'elle a fait un peu partout où elle est passée, surtout au Nigeria d'ailleurs, puisque les conditions étaient les plus propices. Et puis, on peut trouver dans ce livre aussi certains conseils que on pourrait dire un extrait d'un manuel du savoir-vivre par certaines remarques qu'elle fait de temps en temps au long des pages. Et puis elle montre aussi que certaines choses l'exaspéraient. Il y en a tellement qui nous exaspèrent par les temps qui courent, mais elle les écrit. Et puis surtout la façon dont les gens parfois réagissent et le peu de confiance qu'elle a rencontré dans certaines situations, alors qu'elle y mettait tout son cœur, toute son âme, ne serait-ce que dans les pages du Nigeria où elle parle du bazar français.
Oui, et où elle dit le mieux, finalement, son goût pour la vraie liberté.
Tout à fait.
Hein, oui. On sent que le mot qui revient, d'ailleurs, oui. Je l'ai remarqué, c'est cette espèce de désir d'émancipation, mmh. En même temps que la foi qui animait votre
fait,
épouse.
Oui, oui.
Hein, ne supportait pas les carcans de la société moderne, enfin, oui. Et toute cette avalanche de lois d'interdits qui surgissent.
Oui. Oui. Et de féminisme. Alors, chose elle n'était nullement féministe. Par contre, chaque chose à sa place. Et puis, comme elle le disait, la femme était avant supérieure à l'homme. Et avec toutes ces modes, elle est devenue inférieure. Mais par leur volonté, hein. Du moins la volonté de quelques-unes, je m'entends, c'est toujours pareil.
Et d'ailleurs, il y a un chapitre consacré à ce féminisme vu par elle, le féminisme à l'assaut de l'Église,
oui.
Dans le chapitre concernant le Nigeria. Mais je vous propose, avant d'entrer dans différentes thématiques, de dire un petit peu les raisons pour lesquelles votre épouse donc, s'est intéressée à l'Afrique et a parcouru donc, l'Afrique de Mayotte, à Djibouti, en passant donc ensuite par le Nigeria, qui a été votre dernière affectation.
Oui, en fait, mon épouse ne travaillait pas, du moins elle travaillait jusqu'à ce qu'elle se marie, et je lui avais dit une fois, vous n'êtes pas obligé de travailler. Bon, elle n'a pas eu besoin de le dire deux fois, elle l'a compris tout de suite, et ça lui plaisait beaucoup plus de m'accompagner dans mes affectations que de rester en France à faire je ne sais quoi d'ailleurs et peut-être à s'ennuyer. Donc en fait, elle m'a suivi dès le départ, hein, en commençant par Djibouti, ensuite Mayotte et ensuite le Nigeria. Voilà, donc elle a fait tous ces trois postes en même avec moi. Mais d'une autre manière, évidemment, puisque moi j'étais censé y travailler alors qu'elle avait tout son temps pour s'organiser comme elle le voulait, voir qui elle voulait et entreprendre ce qui l'intéressait. Voilà.
Alors, ce qui est assez frappant, c'est que au retour de ce parcours africain, finalement, votre épouse est un peu surprise. Enfin, je suppose que vous l'êtes un peu également, parce qu'elle retrouve une France qui a considérablement changé, et elle commence son ouvrage sur la France de notre temps.
Oui, oui, il faut dire que on s'en est aperçu à chaque fois qu'on quittait Saint-Germain et qu'on revenait. Des éléments visibles apparaissaient dans le paysage et on se disait, tiens, ça change.
Alors, outre l'immigration, bien sûr, oui, oui. Elle constate et elle déplore une espèce d'effondrement général de civilisation. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cela, de ce qu'un Français qui vit à l'étranger peut ressentir en revenant sur la terre-mère après avoir passé des dizaines d'années?
Bon, alors c'est peut-être parce que la région parisienne est peut-être plus marquée, mais la première chose qui apparaît, si vous voulez, c'est les gens semblent soucieux, beaucoup plus. Oui. On a le droit d'être soucieux.
Mais la tristesse
abattue. Et ça, je m'en apercevais, moi, quand j'allais à Paris en prenant le RER ou le métro. Les gens regardaient leurs pieds, dormaient. Le matin, ils avaient l'air fatigués. Et le soir, ils avaient l'air fatigués aussi pour d'autres raisons, sans doute, mais fatigués tout le temps. Et jamais souriants. Je ne sais pas, pas un petit signe, pas un petit sourire. Non, alors qu'il y a tellement d'occasions de le faire. Et puis, on s'en apercevait aussi à Saint-Germain, pratiquement en allant au marché ou n'importe quoi. Les gens sont plus tristes. Et pourtant, nous ne sommes pas à Paris. Hein. C'est déjà plus détendu, plus tranquille. Loin des soucis que connaît la capitale.
Et puis surtout, un état d'esprit qui a changé. Avec une mentalité qui réécrit l'histoire. Au gré des idéologies, dit-elle.
Mais ça, effectivement, c'est à force de lire. Elle lisait tous les jours Le Figaro. Je ne fais pas de publicité.
Elle cite beaucoup Le Figaro, ouais, à la fois positivement et négativement.
Oui, oui, tout à fait. Mais elle le lisait, elle l'épluchait complètement, oui. Ce qui n'est pas mon cas. Elle lisait Valeurs Actuelles, elle lisait tout un tas de journaux ou de revues qui lui tombaient sous la main ou que je lui apportais. Et effectivement, il y avait de quoi pas s'étonner, mais s'attrister de la façon dont les choses évoluaient. Et surtout, effectivement, la façon dont les choses étaient dépeintes ou rapportées, ne serait-ce que pour des sujets historiques, pour que ça puisse être favorable à des idéologies que je ne citerai pas, hein, mais vous les connaissez, de manière à présenter les faits sous un autre angle. Et les gens, malheureusement, qui se contentent d'aller regarder la télévision ou d'écouter certaines chaînes de radio, gomment tout ça et ensuite vous le ressortent. Parce qu'après, on en avait effectivement la représentation d'une autre manière par les gens dont on voyait qu'ils n'avaient que ça comme référence. Et ça finit effectivement par rentrer au bout d'un moment.
France change ses valeurs en important les standards et les grands principes puritains venus des États-Unis, s'adonnant au culte de l'argent, perdant la gaieté et l'élégance qui faisaient son charme et sa réputation inégalée. Ayant choisi pour ma part de partager ma vie avec un officier de Légion, que vous êtes, j'ai préféré à un travail dans un bureau sombre de Paris le suivre dans l'aventure légionnaire. Et j'ai pu ainsi découvrir l'Afrique et ses habitants qui ont tant à nous apprendre, car là-bas, j'ai retrouvé ces valeurs qu'eux ont thésaurisées. C'est un peu tout l'objet du livre.
Tout à fait, oui, oui.
Alors, le livre commence donc sur, je disais, sur un état des lieux, assez inquiétant, avec beaucoup de citations, de remarques, un agacement. Souvent répété pour ce qu'on appelle la repentance, hein, cette espèce de haine de soi qui anime aujourd'hui, beaucoup de réactions, non seulement de la nomenclature médiatique, mais surtout de l'éducation nationale, hein, qui finalement culpabilise un peu les petits Français sur leur passé, sur leur... Oui.
Ceci s'est accentué d'ailleurs depuis que le livre est écrit. Hein.
Très nettement.
Très nettement.
Et avec surtout une jeunesse, dit-elle, désespérée. Alors désespérée, pourquoi ?
Je ne sais pas si elle est vraiment désespérée. Je crois que surtout elle n'a pas d'espérance. Elle n'a pas d'espérance en fait. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de elle n'a pas de repères. Elle n'a pas de règles. Donc à partir du moment où elle est perdue, que voulez-vous que ça puisse donner ? Elle est censée faire des études, mais des études qui s'appuient sur rien. Et ensuite, elle tombe dans le chômage. Parce que quand on voit le taux de réussite à ce bac nouveau là, qu'on a souvent avec une moyenne revue et corrigée qui est tout juste au-dessus de 10 pour pouvoir l'avoir, ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas eu de règles à la maison, ils n'ont pas eu de règles à l'école. Ils sont perdus. Donc après,
et
ils tombent dans...
elle fait remonter cet état de délabrement, de décrépitude à la Révolution française.
Bah oui.
La Révolution française qui a abattu, dit-elle, tous les repères au nom de la déesse raison et des lumières, puisqu'elle décrète la Révolution n'a pas besoin de savants.
Oui, d'ailleurs, elle avait fait décapiter Lavoisier, si je ne me trompe pas.
Et elle va donc plus loin, puisqu'elle dit qu'en s'attaquant à la religion catholique, elle supprime les raisons de vivre et de mourir des Français qui virent assassiner leurs prêtres au nom de cet étrange slogan « La charité est interdite ».
Oui, d'ailleurs, il n'y a plus de charité, il y a de la solidarité maintenant. On est solidaires.
La fraternité ?
Même pas. Une fausse fraternité, une solidarité, c'est-à-dire que quand un groupe se sent menacé de je ne sais quoi, on est solidaire. Ça veut dire quoi, ça ? Le premier cercle, c'est effectivement la famille. Ensuite, c'est autour de la famille, ça va un peu plus loin, puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Mais le premier lien là-dedans, c'est la charité, c'est pas autre chose. Solidarité.
Véronique va nous lire un passage justement qui concerne cet aspect des choses.
Au nom de cet étrange slogan « La charité est interdite », les religieux furent chassés des écoles et des hôpitaux, entretenus par la dîme si caricaturée, alors qu'elle n'était que la redevance permettant à l'Église d'entretenir les hôpitaux et les écoles, au temps où il n'y avait pas de trou de la sécurité sociale car les religieux ne faisaient pas les 35 heures. Il travaillait pour l'éternité. Remplaçant l'enseignement gratuit jusque-là, la République le décréta obligatoire pour mieux enseigner aux enfants que tout ce qui avait précédé était abominable. On se demande comment notre pays avait pu exister avant l'an 1 décrété par les révolutionnaires. Vous écoutez Radio Courtoisie. Benoît Mancheron reçoit ce matin Bernard Dufour, époux de Fabienne Monclar, qui a rejoint le père il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Et nous parlons de ces deux ouvrages, donc Monclar, le Bayard du XXe siècle, et surtout La Blanche avec sa croix, qui évoque vos souvenirs, notamment en Afrique.
Alors, une leçon d'histoire pour se faire respecter. Finalement, c'est ce que fait votre épouse à travers cet ouvrage.
Quelque sorte, oui. Oui.
Parce qu'elle part des constatations d'un général, hein, du général Pichot Duclos, à plusieurs reprises d'ailleurs.
Oui.
Elle a l'air d'avoir apprécié les réflexions de ce général.
Mais en fait, il faut souligner...
Dans les guerres secrètes de la mondialisation.
En fait, le général Pichot Duclos, son père, qui était général aussi, d'ailleurs, oui, connaissait bien le général Monclar.
Ah !
Et c'est amusant, il y avait déjà une relation à ce niveau-là, et... En fait, après, la relation s'est faite au niveau de mon épouse et du général Pichot Duclos, qui malheureusement n'est plus de ce monde maintenant, mais qui effectivement s'était spécialisé dans le renseignement industriel et autres.
Oui. Et qui posait la question suivante, oui: pour être un bon Français, faut-il se désintégrer ?
Voilà, oui.
Je crois que tout est dit,
tout à fait, hein,
parce
oui,
que cette déconstruction à la Derrida, finalement, s'étend à toute la société. Elle est devenue quasi-sociologique.
Oui. Maintenant...
Et sociétale.
Sociétale, comme on dit maintenant, oui. Sociétale.
Alors, autre mot important du livre, la pitié dangereuse,
oui,
qu'elle a emprunté à Bernanos. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, un mot sur cet aspect-là de son livre ?
C'est-à-dire que la pitié, il n'y a plus de pitié. On n'a pas pitié. Ça marche avec la charité, en fait. On n'a pas de charité, donc on n'a plus de pitié. Il faut se préoccuper de ses besoins personnels, de sa famille, sans doute, mais pas au-delà. Les autres, la pitié n'existe plus.
Et elle parle également des attentats qui commençaient en 2015. Avec les attentats...
2011 Charlie. Même, elle commence avec 2011, avec les deux tours là, aux États-Unis.
Oui, ouais. Enfin 2001.
2001, pardon. C'est 2001. 2001. Mais après l'ancienne sur ceux de 2015, bon, il y en a eu tout un tas de toute manière. Effectivement.
Alors, on va peut-être parler de ce qu'elle appelle maintenant les vertus oubliées. À savoir les vertus oubliées du continent africain. Parce que pour elle, ça a été une espèce de choc que ce contact, ce premier contact avec l'Africain. Et vous pourriez nous dire un mot de cela. Ça a commencé, dit-elle, avec Mayotte. Mayotte où elle a été à la fois fascinée par les paysages, paraît-il, qui étaient magnifiques.
Beau. C'est très beau.
C'est très beau.
Oui.
Et donc, il y a des descriptions de Mayotte qui sont particulièrement attachantes dans ce livre. Et en même temps, elle a été fascinée par les habitants de Mayotte, par l'histoire de Mayotte. Mmh. Et j'aimerais que vous nous développiez cet aspect-là, parce que Mayotte n'est pas... ce ne sont pas des îles comme les autres, puisque c'est un archipel.
Oui.
Et il y a eu un référendum, dans les années 70 d'ailleurs, qui n'a jamais été reconnu d'ailleurs par l'ONU, puisque non. L'ONU considère que... Mayotte devrait appartenir aux Comores. Mm-hmm. Mais votre épouse nous explique qu'en 1841, Mayotte avait choisi la France, avait déjà choisi la France et surtout apprécié la France parce que la France était venue les sortir de l'esclavage.
C'est-à-dire qu'il y avait deux menaces, du moins deux menaces permanentes sur Mayotte à l'époque. C'était d'abord les razzias qu'effectuaient les autres Comores et Madagascar, et de temps en temps aussi la Tanzanie, qui venaient se servir en jeune, en bonne santé. Donc tous ceux qui avaient plus de 15 ans étaient ramenés ailleurs pour en faire des esclaves. Et il y a eu une autre menace qui s'est fait sentir aussi, c'était l'Angleterre. S'intéressait à cette île. Donc à la fois pour se libérer de l'esclavage vis-à-vis de Madagascar, des autres Comores et de la Tanzanie, et pour éviter d'être occupé par les Anglais, le prince local, ou le roi, je ne sais plus quel était son titre, a demandé d'être protégé par la France et donc a perdu son indépendance au profit de la France. Donc ce n'est pas une conquête, c'est une demande de protection. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Il devait être, d'après un capitaine du génie qui avait fait un recensement, il devait avoir à peu près 3300 individus. Oui, c'était pas... Alors sur place, ils pouvaient vivre sans difficulté. Maintenant, ils sont plus de 230 000. Bon, il faut dire que là-dedans, il y a peut-être des Maorés, mais il y a des Malgaches, des Comoriens des autres îles, et puis tout un tas de gens qui sont venus s'installer parce qu'il y a un réel attrait. Toute femme qui arrive et qui met au monde un gamin là-bas, c'est la première maternité de France, Mamoudzou. Le gamin devient français. Donc, comme maintenant Mayotte est devenue un département, la possibilité d'aller non seulement en France ou ailleurs en Europe, chose qui ne se faisait pas avant.
Et alors, ce qui est frappant, c'est que votre épouse montre que l'islam à Mayotte n'est pas l'islam des Comores.
Oui, bien, c'est un islam d'abord dans une île qui est dans une zone où il fait bon vivre. Le thermomètre se balade entre 11 et 22, du moins le mercure du thermomètre. Donc ça va toute l'année. C'est peut-être un peu fatigant aussi, mais pas trop chaud. En plus, il faut savoir qu'à Mayotte, il y a un matriarcat, ce qui n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est l'homme qui commande tout,
oui.
qui répudie à tour de bras, du moins en le disant trois fois. Voilà. Alors qu'à Mayotte, non, c'est la femme. Et c'est un peu le problème d'ailleurs des pères de famille qui ont des filles, parce que pour les marier, pour leur faire un grand mariage, il faut qu'ils leur fournissent une maison. Et cette maison, l'avantage, c'est que si la femme est répudiée, elle dit à son mari, tu fais tes valises et tu t'en vas. Elle est chez elle.
Oui.
Voilà, elles ont une action assez étonnante.
Et votre épouse a eu de très bons rapports avec ces femmes, justement.
Tout à fait, oui. Elles sont franches, elles sont... Il n'y a pas de dissimulation. Hein. On parle comme on vit comme on parle. Et d'ailleurs, il y a un endroit, si vous regardez, les cadeaux sont surprenants. On se promenait une fois sur l'île, sur la Grande Terre, et on rencontre des individus qui transportaient un gros régime de bananes. Bon, on lui donne une banane. Réflexe occidental, c'est combien ? Ben non, c'est cadeau. Hein ? C'est cadeau. Voilà, ben ça...
Mayotte, l'île au parfum.
Oui, l'île au parfum, oui.
Parce que c'est réellement l'île au parfum.
Ah ben oui, parce qu'il y a des exploitations d'Ylang Ylang. C'est un fixateur de parfums et Guerlain s'y était pas trompé, hein, puisqu'il avait investi localement. Et ces senteurs, comme il y a un peu de vent quand même, il y a des alizés souvent, traversent l'île, on les sent. Alors je suppose que les navigateurs, dans le temps, bon, l'Ylang Ylang était peut-être moins développé, il se développait de manière sauvage peut-être, mais les navigateurs avaient dû sentir aussi ces fragrances.
Et vous étiez là-bas, commandant militaire de l'île, si j'ai bien compris.
En fait, je commandais le détachement 91. De légion étrangère de Mayotte, et donc, en tant que commandant de la légion, j'étais aussi commandant militaire.
Elle dit que sa situation de squaw,
oui, ça c'est
du chef, n'était pas toujours très facile.
C'est certain. C'est certain.
Marie-Antoinette en su quelque chose, Louis XVI, n'ayant pas pris de maîtresse
moi
pour prendre les coups, je n'ai pas été guillotiné, mais moralement, l'épreuve s'est révélée quelquefois un peu rude.
Mais c'est vrai, dans des endroits un peu retirés,
oui.
Où la population est limitée, surtout là, on parle de la population occidentale, disons-nous, hein. La population est limitée, ça vit un peu en vase clos. Et dès que l'on vit en vase clos, il y a tout de suite de mauvaises idées qui arrivent, des jalousies. Dans toute société réduite, ça existe, même dans des moins réduites d'ailleurs. Mais c'est beaucoup plus difficile à supporter quand on est un peu loin de tout et complètement isolé. À Paris, il y a un problème, ben vous allez vous promener, vous allez au musée, vous faites je ne sais quoi.
Alors que là, pour se distraire...
Là, la distraction...
Même l'apprentissage du français. Hein.
Oui, d'ailleurs, elle raconte un
Il y a
coup,
une anecdote.
Oui, avec Alou, oui.
Alou de cette femme qui venait apprendre le français.
Mais... Elle a d'ailleurs dédié le livre.
C'est la seule chose que j'ai pu faire pour elle, mais je dois le dire en vain.
Oui, c'est pas évident non plus.
Ce que j'ai rapidement appris, c'est que les Africains ne se penchent pas sur eux-mêmes.
Non.
Comme les Français ont appris à le faire avec le principe de précaution, toutes les maladies pernicieuses qui les attendent, si on fait tous les dépistages d'un cancer éventuel, qui nous attend tous, un jour ou l'autre, et ce qu'on nous interdit, nous amenant rapidement à la dépression, le taux de suicide atteignant de sinistres records.
Certes.
C'est une réflexion d'ailleurs d'autant plus intéressante que votre épouse fumait beaucoup.
Oui, mais ça n'a pas été la cause de son
décès. Et qu'elle précise dans son livre qu'effectivement, même malade, le médecin a bien précisé que sa maladie ne venait pas de là.
Bon. Ben, tout à fait, mais on a connu beaucoup de personnes comme ça qui sont mortes d'un cancer, de la gorge, de je ne sais quoi, et qui ne fumaient pas du tout.
Oui.
Et une
ou
fois,
des poumons.
Ou des poumons. Je me rappelle une fois mon épouse qui dit à quelqu'un, je crois que c'est à son frère d'ailleurs, elle lui dit, un tel, au fait, il est mort d'un, je ne sais plus trop quoi, cancer de quelque chose, mais du côté de la gorge ou des poumons, un truc. Réaction, il dit, mais oui, mais il fumait comme un pompier. Et elle lui dit, mais rappelle-toi, il avait de l'asthme, il ne pouvait pas fumer.
Oui.
Comme quoi, ça y est, il y a des schémas, hein. On meurt d'un cancer des poumons, ça veut dire qu'on fumait. Non, on ne fume pas forcément. Et on a connu une personne qui n'avait jamais touché une cigarette.
Elle avait 100 ans.
Ça, ça enfin, en est encore
ça une autre. Une autre.
Oui, bon. Parce que l'autre est morte beaucoup plus tôt, mais elle n'avait jamais fumé. Alors que celle qui fumait, celle que nous, nous connaissions, qui avait fumé effectivement comme un pompier,
il
faut dire qu'elle avait, elle avait quand même fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait continué en Corée comme assistante sociale. Et donc, elle avait des raisons de fumer, dirons-nous.
Oui.
Mais elle est morte à plus de 100 ans. En continuant à fumer, et ce n'est pas ça qui l'a terrassé. Hein.
Oui, moi j'avais un grand-père qui fumait, qui n'est pas mort de cela non plus, et pourtant mort relativement âgé.
Je ne dis pas que la cigarette ne tue pas certaines personnes, mais c'est une question de terrain plutôt qu'autre chose.
Oui, mais comme elle dit très justement d'ailleurs au fil de ce livre, elle dit on interdit et on taxe de plus en plus les cigarettes, alors même qu'on s'apprête à légaliser le cannabis.
Bon. Oui, mais il y a des,
des paradoxes qui,
certains pays l'ont fait, donc on le fera. On le fera, oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, il y a les salles de shoot pour faciliter la chose.
Et là, le coût n'en sera pas trop élevé, n'est-ce pas?
Oui.
Bon, alors, autre anecdote autour de Mayotte. On ne peut pas ne pas évoquer celui qu'on a appelé le perturbé.
Ah, le perturbé, oui. Oui, c'était son surnom. En fait, c'était un...
Surtout que c'est un lien avec la Légion.
Oui, c'était un prêtre, mais qui n'était pas...
Très nouvelle manière.
Il n'était pas aumônier.
Non.
Bon, il était dans le système actuel. Et il avait rendu visite donc à Mayotte, au détachement. Et les caporaux-chefs, puisqu'il y avait quand même une grande partie de l'effectif qui était fait de caporaux-chefs, qui sont des soldats qui ont une grosse expérience, et dans ce genre d'affectation où les effectifs sont quand même limités, il est important d'avoir à chaque poste quelqu'un de compétent. Donc ils l'avaient invité, et donc ils avaient une popote parce qu'ils étaient assez nombreux. Donc ils l'avaient invité à déjeuner, et l'un d'eux lui a demandé de dire le bénédicité. Vous avez vu la réponse qu'il a faite, hein? Toutes ces conneries, bon, d'accord. La fois suivante, il a été mis dehors. Hein.
Oui, ce que j'aime bien, c'est qu'il s'apprêtait à revenir du...
Oui.
Ils ont profité. Et puis, surtout, votre épouse a eu droit, aux remarques à propos d'une cérémonie.
Ben oui, c'était pour le Vendredi Saint.
Pour le Vendredi Saint.
Elle espérait que...
Absolument surréaliste.
Il n'y avait rien, donc elle espérait quand même...
Elle dit l'office fut indéfinissable.
Ben oui. Il espérait avoir une
reste charitable.
Oui,
et il est difficile d'en garder un souvenir. Par contre, à la sortie, ce sont les paroles d'un légionnaire qui m'en donnèrent la signification. Vous êtes fichu de moi, madame la colonelle.
Tout à fait.
On ne se moque pas de Dieu ni de la foi des hommes. C'est un terme assez profond de la part de gens qui ne sont pas forcément très, très pratiquants.
Non, d'autant plus que là-bas, il n'y avait pas moyen de pratiquer, parce qu'il n'y avait pas, de messe. Hein. Mais... Elle a eu le même genre de déconvenue aussi, mais c'était pour Noël. Pas tant dans la messe de Noël, si on pouvait appeler ça une messe, mais dans le sermon qu'a pu faire ce prêtre, qui était assez désespérant, quoi, essayant de comparer la venue de la naissance du Christ à Bethléem en le mettant à notre époque, donc en disant qu'il ne pouvait pas, à ce moment, il ne serait pas né dans la villa du colonel. Bon, ok, je veux bien. Effectivement, il n'était pas suffisamment au niveau. Il n'était pas non plus, il ne serait pas né non plus dans la résidence du préfet, pourquoi pas, mais qui serait né dans la chambre des légionnaires. Bon, je sais bien, mais il n'y avait pas tellement d'arguments ni d'un côté ni de l'autre. Je pense qu'on aurait pu, élever un peu le débat et parler d'autre chose.
Oui. Alors, avant de passer au Nigeria, puisque c'est quand même le noyau du livre...
Le plus gros, oui, la plus grosse partie.
Une petite anecdote qui montrera que le livre est d'actualité. Chez nous, dit-elle, ce sont les mœurs chrétiennes qui ont façonné les mentalités. C'est ainsi qu'on peut s'étonner de la suggestion qui se veut sans doute innovante d'un écologiste. Il propose de supprimer la viande de nos repas une fois par semaine. C'est pas de la mode. Pour préserver notre environnement comme le bétail. Alors elle lui répond qu'il se convertisse, car cela fait longtemps que les chrétiens observent cette prescription. Ce qui ne fait pas de mal quand on a tout. Et le poisson, c'est bon.
Et il y en a d'autres qui ont remis ça sur le tapis il n'y a pas longtemps, là. Ils sont 500, paraît-il. Oui. Hein, 500.
C'est ce qu'elle dit. Voilà qu'on vient de décréter la viande cancérigène, la viande rouge. Ouais. Et par un sentiment de compassion propre au christianisme, il est prescrit dans la loi française d'assommer le bétail avant de l'égorger, comme il est fait avec le porc. Sort là pour leur épargner de souffrir, évitant de plus certaines contaminations de la viande des animaux stressés lors des abattages rituels ne respectant pas la loi. Alors vous me voyez arriver, forcément, elle dit quelques mots de cette coutume qui consiste à ne pas étourdir et surtout à saigner,
saigner
les viandes, les rendant par là même dangereuses
à
la consommation.
Tout à fait, oui, parce qu'il y a une réaction et on avale finalement, en mangeant ces viandes, on risque d'avoir d'avaler des toxines et puis d'avoir des gros problèmes de santé par la suite, oui.
Oui, parce que de tout ce qui vient des intestins...
Ben oui, ça remonte en fait, il y a une réaction...
Je crois que là, sur cette antenne, on en a largement parlé.
Je pense, oui.
Et qu'il est temps de dire quelques mots donc, du Nigeria. Alors le chapitre Nigeria s'intitule « Terre de pétrole et de martyrs ». Le Nigeria est un pays très particulier. Ça a été votre dernière affectation.
Tout à fait, oui.
Donc, comme attaché de défense, ce qui est fort intéressant.
Très intéressant.
Et qui vous a conduit à pas mal de déplacements, d'ailleurs. C'est un pays qui se divise en deux, nord et sud.
Oui, il se divise en deux. D'abord, c'est un pays qui est très grand, qui fait à peu près la France plus la Belgique, même plus. Plus de 900 000 km², qui est très vaste, qui est mal desservi parce que l'entretien laisse aller les routes, par exemple. En France,
c'est un pays qui regorge de pétrole,
qui pourrait être
d'une richesse inouïe.
Si mes chiffres n'ont pas changé, il doit être le 7e producteur ou quelque chose comme ça. Hein.
Oui.
Entre le gaz et le pétrole, il est très bon. Mais le problème, c'est que l'argent, comme dans tous ces pays en général, n'est pas remis là où il faudrait, n'est pas investi.
Oui.
Voilà, du moins, quand je dis tous les pays pétroliers, du Sud.
Ce qui est d'ailleurs un peu triste, c'est que vous êtes arrivé à un moment très intéressant, parce que c'est le moment du passage entre la dictature militaire à un régime qui, normalement, devait être un régime dit démocratique, avec un président civil.
Oui.
Et c'est très intéressant d'étudier la manière dont votre épouse analyse l'évolution de la situation sur place, parce qu'on s'aperçoit que finalement, en terre pseudo-démocratique, le désordre est encore plus prégnant.
Mais c'est-à-dire que la dictature, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas vraiment de dictature, il y avait un chef qui faisait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire qu'il tenait ses populations. Bon. On pourrait voir la même chose avec Saddam Hussein ou bien en Libye. Alors c'est vrai qu'en Libye, Kadhafi était un peu fou, peut-être un peu plus, mais dans ces pays, ça se tenait. Hein? En Libye, il y avait des églises.
Oui.
Chez Saddam Hussein, tout le monde vivait en bonne intelligence. Ça n'empêchait pas qu'il y ait des problèmes, mais ça se passait bien. Bon. Et avec Abacha, au Nigeria, le pays vivait. Je ne dis pas qu'il vivait comme il aurait dû vivre, mais il vivait, ça se tenait. À partir du moment où Abacha est mort, on a imposé la démocratie, donc des votes. Il faut voir dans quelles conditions. Si, je ne sais pas si vous avez retenu la façon dont les gens ont voté, c'était assez facile, même pour les identifier. À partir de ce moment-là, on a voulu mettre la soi-disant démocratie. Donc, tout ce qui n'était pas signe de démocratie a été enlevé, en particulier l'implantation de militaires ou d'équivalents armés un peu partout pour assurer la sécurité. À ce moment-là, eh bien, tout le monde s'en est donné à cœur joie, et en particulier ceux qui en profitent dans ces cas-là, c'est-à-dire les voleurs et autres. D'où l'anecdote du marché où ce jour-là, on ne pouvait plus aller parce que c'était la démocratie.
Oui.
Voilà.
Et puis surtout, l'anecdote extraordinaire de ces Européens ces épouses européennes qui ne voulaient pas aller au marché. Et votre épouse transgresse, la chose. Elle demande à son...
au Patrick.
Fameux, qui est d'ailleurs, sur la couverture,
Patrick,
de la conduire là où va sa femme.
ça.
Ce qui
voilà.
est une excellente demande. Ouais. Et il lui dit, mais vous êtes sûr? Du coup, vous le voilà transformé en garde du corps, mais en réalité, son arrivée au marché se passe terriblement bien.
Mais c'est vrai.
Et surtout qu'elle porte une croix à son cou.
Tout à fait.
Ce qui va la faire surnommer la Blanche.
La Blanche avec sa croix.
Et qu'elle est admirablement reçue par le marchand en question, qui est lui-même chrétien.
Ben oui, oui, c'était quand même rare déjà de voir une Blanche dans ces marchés. Et puis, en plus, une Blanche qui ne cache pas sa foi, hein, qui arbore une croix, même si c'était une croix simple et en bois, parce que en Afrique, par principe, vaut mieux éviter, d'ailleurs maintenant en France aussi, ou en Europe, d'avoir des objets trop brillants en or. Donc, par sécurité, j'avais dit, mettez plutôt une croix en bois.
Oui.
Et effectivement, ça a été la fête. Ça a été la fête et ça a été pareil avec lorsqu'elle était invitée à un mariage d'un gateman, c'est-à-dire d'un gardien de l'ambassade.
C'est cela. Hein, alors, avant que vous nous disiez un mot de ce qu'est l'islam au Nigeria, parce que c'est d'actualité,
oui.
c'est même brûlant d'actualité,
oui.
et Dieu sait si elle en parle, parce que... Elle raconte une histoire incroyable, enfin en 2002, hein, d'une pauvre Nigériane qui est tombée enceinte à la suite d'un viol et qui se retrouve lapidée pour adultère.
Oui.
Ça se passe aujourd'hui au Nigeria, ça.
Dans la partie du Nigeria où est appliquée la charia, c'est-à-dire les États oui. du Nord. Bon, pas forcément de la même façon dans tous, parce qu'il y a 36 États et en gros, la moitié au Nord est musulmane et la moitié au Sud ne l'est pas. Mais de façon différente, c'est-à-dire que si dans l'islam il y a des variantes, en fait, quand on parle d'islam, il se serre les coudes. Alors que dans le sud, la partie chrétienne, il y a de tout. Vous avez le sud-est, qui est là, en gros la région du Biafra avec les Igbo, où il y a le pétrole.
Oui.
Ceux-là sont normalement catholiques. Et vous avez toute l'autre partie au sud-ouest, où là, il y a des Yoruba qui sont un peu de n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a du protestantisme, il y a un tas de sectes du genre des séraphins, des chérubins, des
énormément de sectes protestantes.
Des sectes protestantes, les énièmes, les témoins de je ne sais combienième jour, bon, tout un tas. Il y en a des tonnes. Il suffit d'avoir un bon micro, d'avoir un peu de bagou, et hop, on crée une secte et on entraîne tout un tas d'individus, parce que l'Africain a besoin de croire. Hein. Il lui faut une foi. Bon, alors évidemment,
elle dit que la religion naturelle est très présente en Afrique.
Voilà, elle est très présente.
Et qu'elle donne d'ailleurs un certain bon sens à l'Africain de base.
Tout à fait. Oui, il y a une religion naturelle innée.
Oui, oui.
Donc, si quelqu'un les détourne du paganisme, mais les amène vers une secte, eh ben, ils vont aller à la secte. C'est plutôt structuré. Mais ce ne sera pas forcément la bonne religion. Hein. Donc, il y a de tout, voilà.
Et alors, avec des messes extraordinaires, hein, dans une espèce de patois anglais.
Oui, c'est un pidgin, en fait.
Oui, ça s'appelle le pidgin.
Oui, pidgin. Oui. En fait, il y a du pidgin ou dans les endroits un peu plus retirés, dans un langage local, parce qu'il y a beaucoup de dialectes, dans un langage local, et où il y a des mélanges, surtout avec la possibilité offerte maintenant, après les transformations de Vatican II, de faire un peu comme on le sent.
Oui.
C'est-à-dire, vous pouvez imaginer, surtout que là-bas, la danse est dans... Autant la religion naturelle est présente, et la danse, c'est un peu une autre religion. Hein. Donc, on mélange tout ça, et on vous fait défiler les gens pour aller donner de l'argent, plutôt que de faire comme chez nous avec le quêteur qui se promène d'un banc, qui se passe d'un banc à l'autre. Non, là, ce sont les gens qui vont un peu en dansant et qui mettent leur argent. Oui.
Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, avant que Véronique nous lise la description que votre épouse fait de Lagos, parce qu'il y a beaucoup de descriptions dans ce livre,
oui.
et je ne voudrais pas qu'on passe à côté, elle raconte une anecdote extraordinaire avec le latin.
Ah oui.
Quand elle prononce une prière en latin et que l'Africain lui dit oh, mais c'est la langue du bon Dieu.
Oui, oui, c'est plus beau, c'est la langue du bon Dieu, oui. C'est ça, oui, oui.
Il est vrai que Lagos est une ville impressionnante. Du béton décrépit, style Nanterre, au milieu d'une végétation luxuriante sur laquelle est venue se greffer une urbanisation désordonnée qui véhicule une misère hallucinante. Si on la compare à la pauvreté qui envahit peu à peu l'Occident, ici, elle est grouillante, elle est partout. Elle règne omniprésente, presque compétitive, sur ce qui tient lieu de trottoir derrière les détritus. Elle vous harcèle à travers le visage du poliomyélitique lové sur son pneu au milieu d'une grande artère. Il n'a pu s'offrir le jeu préféré des Européens, le skateboard, qui est ici le moyen de locomotion des infirmes. Les éclopés tentent de gagner leur vie sur des tables brinque-ballantes où l'un vend une bouteille de coca, un autre une bassine, un vieux pneu ou encore une paire de chaussettes. Le blanc qui s'y promène est harcelé par une nuée de colporteurs. « Madame, prends-moi une carotte, un chou, une banane. »
C'est ce que vous avez vous-même.
C'est exactement ça, tout à fait.
Ressentir. Oui. Et elle explique aussi que c'était une ancienne colonie britannique.
Oui.
Et que ça explique peut-être un certain nombre de choses.
C'est-à-dire que les Britanniques n'ont pas colonisé de la même manière. Ils prenaient les structures existantes et en fait dirigeaient à travers ces structures. Et donc, il n'y avait pas de proximité, si je puis dire, entre l'occupant et la population locale.
Ce qui est différent. Les anglo-saxons, durant les conflits, utilisaient leurs auxiliaires noirs ou indiens comme porteurs ou boys.
Oui.
Et non comme soldats, avec les mêmes risques, mais sans honneur de combattre. Mmh. Alors que les Français n'hésitaient pas à incorporer les auxiliaires des Américains dans leurs propres troupes, où ils se révèlent de si bons combattants.
Ce qu'on a vu en Corée, essentiellement, où mon beau-père engageait ses Coréens comme soldats et pas comme porteurs. Et d'ailleurs, il en a été très satisfait parce qu'ils se sont révélés être des soldats magnifiques.
Alors, je disais avant de commencer cette émission que le livre était court, mais finalement, il en reste encore un bon tiers à aborder. Mm-hmm. Mais vous n'êtes pas là forcément pour faire l'inventaire absolu de tout ce qui est dit dans l'ouvrage, puisqu'il nous reste très peu de temps. Mais j'aurais voulu quand même qu'on aborde peut-être certains aspects qui lui tiennent à cœur, à savoir la foi qui l'anime et surtout la manière dont elle a témoigné là-bas, au Nigeria, de sa foi. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
D'abord, elle a commencé avec Émile, notre cuisinier et majordome.
À qui elle a appris à cuisiner français.
Voilà, oui. Il avait l'intention d'ouvrir un restaurant à Cotonou, donc je ne sais pas si ça s'est fait, mais au moins il avait de bonnes bases et de bonnes recettes. Bon, ça a commencé par là, puisqu'elle l'a vu un jour dans son coin en train de dire son chapelet. Donc, ils se sont dit le chapelet en français. Et lui, ensuite, à travers Émile, a fait son apostolat, puisqu'elle est allée chercher tous les boys du coin, et tous les matins, il n'y avait pas que Émile à dire le chapelet, il y avait tous les boys des environs. Et si des ouvriers venaient travailler à la maison, comme par exemple pour faire, parce qu'on avait acheté un salon en rotin pour faire des coussins, donc on a vu appliquer une fois quatre, si je me rappelle bien, quatre tapissiers, dirons-nous, un qui portait la mousse, l'autre qui portait la machine à coudre, qui marchait à la main d'ailleurs, même pas à pied, l'autre qui transbordait le tissu, bon, je ne sais pas trop quoi. Et avant, de toute façon, de se mettre à l'ouvrage, il y a eu la prière. Oui. Il y a eu le chapelet. Et c'était comme ça pour tous.
Et vous racontez, enfin, elle raconte, pardon, ces extraordinaires, enfin, deux anecdotes extraordinaires où, d'une part, elle permet à Émile de se marier.
Oui.
Et deuxièmement, à un autre, je crois, de faire sa confirmation.
Et c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient tous les deux dans le même cas. Ils avaient été confirmés. Non, ils avaient été baptisés, mais voilà. Pas confirmés.
Oui.
Et ça faisait donc un certain temps qu'ils attendaient.
Et un prêtre vient la voir en lui disant « Non, non, on ne peut pas. »
On ne peut pas,
Enfin,
ouais.
Un prêtre moderne, pourtant. Oui, il devrait être ouvert d'esprit.
Oui, non, mais...
Il lui dit « Ah non, 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 vous comprenez, il a une deuxième épouse, voilà. Une troisième épouse cachée, donc on ne peut pas...
Bon. » Donc, pourquoi
ne... Alors, votre épouse se dit, basiquement, je vais aller lui dire qu'il faut peut-être se concentrer sur l'une d'entre elles.
Voilà.
Et il comprend ça parfaitement, ils iront avec la deuxième épouse et la troisième épouse.
D'ailleurs, elle est partie par elle-même, je crois.
Oui, c'est
donc hallucinant. Après, ils ont pu se marier, effectivement. Se confirmer et se marier.
Oui. Ouais. C'est une anecdote assez drôle.
Oui, mais parce qu'en fait, il n'y avait aucun courage de la part du prêtre qui
n'osait pas dire.
Il n'osait pas dire, il fallait le dire, c'est tout simplement.
Oui.
Chers auditeurs, vous pourrez retrouver Bernard Dufour dans une dizaine de jours, le samedi 9 février. Donc pas samedi qui vient, celui d'après, samedi 9 février, à la librairie Notre-Dame de France, 33 rue Galante, pour vous présenter cet ouvrage « La Blanche avec sa croix » de son épouse Fabienne Monclar, qui est publié aux éditions Via Romana. Il y aura également l'autre livre, Monclar, le Bayard du XXe siècle.
Alors, votre épouse achève son livre en le dédiant à la victoire de Lépante et en la fête de Notre-Dame du Rosaire. Ce n'est pas un hasard qu'elle lit les deux.
Non. On sait bien que la bataille de Lépante a été gagnée grâce aux prières, justement, demandées par le pape à l'époque. Et ce qui a permis d'ailleurs d'avoir une vision. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de moyens de communication que nous connaissons maintenant, mais la bataille était gagnée, il en a eu la vision, qu'on lui a confirmée un peu plus tard. Donc, tout ça marche ensemble.
Et les deux citations qu'elle met en exergue pour son livre permettront d'achever cette émission d'une manière assez dense. Elle cite à la fois le cardinal Sarah, qui revient de manière régulière tout au long du livre, puisque c'est un cardinal africain type, et elle cite également Roger Nimier. Et alors, la citation du cardinal Sarah, « Notre devoir est d'aller à contre-courant de ce que dit le monde. » Et la citation de Roger Nimier, « C'est mal vu d'être courageux aujourd'hui, ça fait province.
Oui. » Pour revenir à celle du cardinal Sarah, on retrouve dans le texte, je ne sais plus trop où, les évêques africains qui disent « Gardez votre argent, nous gardons nos valeurs. »
Oui, voilà. Gardez votre argent, nous garderons vos valeurs.
C'est
eh bien, merci beaucoup Bernard Dufour d'être venu nous parler un peu de votre chère épouse et de continuer l'aventure de mission. Et chers auditeurs, à très bientôt d'ici 2 semaines.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre Au fil des pages, dirigé par Benoît Moncheron, assisté de Véronique, diffusé en direct mercredi 30 janvier 2019, de 10h45 à 11h45 et réalisé par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.